Yvan Deslauriers, c'est à vous.
Oui. Alors, aujourd'hui, je vous présente deux événements sportifs qui sortent un peu des événements comme on les connaît. Ça commence par une soirée de financement pour le verre et or de l'Université de Sherbrooke. C'est un article de Samuel Larochelle dans la presse du 9 juin. Ça s'intitule « Le verre et or célèbre les athlètes LGBTQ+ ». Lors de la soirée de financement du Verre et Or de l'Université de Sherbrooke le 9 avril dernier, la foule s'est levée spontanément pour célébrer Maud Tanguay, la joueuse de rugby. La joueuse de rugby est ainsi devenue la première lauréate de la bourse de l'athlète étudiant ou étudiante LGBTQ+ de l'année. Cette distinction lui a été remise par le peintre et ancien membre de l'équipe nationale d'athlétisme, Marc Sanson. Il dit « C'était magique. La salle était pleine d'athlètes de toutes les équipes qui ont vu Maud être célébrée. Ça leur envoyait un message très positif. Marc Sanson, c'est maintenant un philanthrope et il nous parlait avec beaucoup d'émotion de cette remise de prix-là. Habituellement nerveuse devant public, l'athlète a été surprise par ce qu'elle a vécu ce soir-là. Je me sentais vraiment bien finalement. C'était beau de voir que j'étais soutenue par tout le monde, surtout après avoir vu certains commentaires négatifs et homophobes quand la bourse a été annoncée. En effet, après avoir révélé la création de la bourse sur les réseaux sociaux le 25 mars dernier, l'équipe des communications du Verre et Or avait été forcé d'intervenir en publiant ce message. Les commentaires transphobes et homophobes sous cette publication seront inacceptables et nous sommes conscients qu'ils ont pu blesser les membres de notre communauté. C'est pourquoi nous avons restreint les commentaires. La bourse, c'est une idée de Marc Sanson qui a porté les couleurs du Verre et Or de 1985 à 1989. Il dit « Il y a 40 ans, il n'y avait aucun athlète ouvertement gay. Je n'avais pas de modèle. Aujourd'hui, c'est plus ouvert, mais il y a encore de l'homophobie dans le sport. Je veux célébrer ces athlètes qui ont le guts d'être eux-mêmes et de montrer le chemin à ceux qui s'en viennent. » Dans les années 1980, le spécialiste du 110 mètres haies ne pouvait pas être lui-même au quotidien. Il dit encore « J'avais peur de parler de mon orientation sexuelle car j'entendais souvent des propos péjoratifs d'autres athlètes et des entraîneurs. Ils ne réalisaient pas l'impact négatif qu'ils pouvaient avoir. » Bien qu'il ait fait sa place dans l'équipe canadienne à 3 reprises, il est persuadé qu'il aurait été meilleur dans un contexte ouvert et inclusif. En 1992, après avoir participé à la sélection olympique, il a accroché ses souliers et rencontré son amoureux. 5 ans plus tard, il est revenu à la compétition, cette fois en s'affirmant ouvertement gay. Il dit « J'ai l'impression de ne plus avoir la pression de devoir performer pour prouver aux autres et à moi-même que j'avais de la valeur, même si je suis différent de la majorité. J'ai réalisé des super performances à 33 ans alors que je m'entraînais moins. » Quand il a proposé une bourse pour soutenir les athlètes LGBTQ+, le Verre et Or l'a appuyé sans retenue. Nous avons une volonté claire de bâtir un environnement sportif où les performances ne sont jamais compromises par la peur du jugement, où chacun peut s'entraîner, évoluer et s'exprimer en toute liberté, selon Jean-Benoît Jubainville, qui est le directeur du sport d'excellence chez le Verre et Or. C'est d'ailleurs un environnement très ouvert qui a permis à Maud Tanguay de s'épanouir. À mes débuts, en rugby, dans mon club en Beauce, j'étais le bébé à 18 ans. J'étais entouré de filles dans la vingtaine qui étaient pleinement assumées. En les voyant, ça m'a permis de me découvrir en tant que personne et d'assumer mon orientation sexuelle. Aujourd'hui, âgée de 22 ans, elle juge que le rugby est très inclusif. Que tu sois gay, hétéro ou trans, tout le monde est bienvenu. Quand j'étais à ma première année avec mon équipe en Beauce, il y avait une personne dans mon équipe féminine qui transitionnait et c'était correct. Je sais que je suis chanceuse et que tout le monde ne vit pas ça. mais Samson a choisi de lui offrir 2 000 $ pour son leadership. Pourtant, l'athlète dit ne pas faire beaucoup de bruit dans son équipe. Elle dit « Je suis discrète, mais authentique et humaine. C'est important pour moi que tout le monde se sente bien. Quand il y a des situations plus difficiles, je suis là pour mes coéquipières et je n'hésite pas à prendre la parole. » Le philanthrope souhaite qu'un jour, la bourse ne soit plus nécessaire. Il dit « J'espère qu'on n'aura plus besoin de célébrer les athlètes LGBTQ+, parce qu'ils feront partie de la normalité. Mais on est tellement loin de ça. » Dans les sports d'équipe universitaire masculin, le hockey, le football, le soccer, personne n'est ouvertement gay. Ce n'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il ne se sent pas à l'aise d'en parler. Alors que certaines voix affirment qu'on devrait se concentrer sur les performances athlétiques et n'accorder aucune importance à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre des athlètes, Jean-Benoît Jubainville préfère se baser sur des réalités concrètes. Il dit « Nous savons que ce n'est pas facile pour toutes les personnes étudiantes athlètes de vivre ouvertement leur diversité sexuelle et nous espérons célébrer une personne qui le fait et qui, souvent sans le savoir, devient un modèle pour les autres. Nous souhaitons que cette bourse ne soit pas éternelle dans un monde sportif où l'inclusion deviendra la normalité.
Ouais. »
Donc, c'était une reconnaissance qui était offerte par l'équipe du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke envers les athlètes LGBTQ+, de son université.
Silence dans la salle.
Silence dans la salle. on est à l'époque du mondial présentement. Alors, à Laval, le samedi dernier, il y a eu des matchs de soccer silencieux. C'est un article de Ariane Lacourtière dans la presse du 12 juin. L'Association régionale de soccer de Laval a organisé des matchs silencieux où les parents et entraîneurs devaient s'abstenir d'applaudir ou de célébrer les actions du jeu. Le match silencieux vise à offrir aux jeunes une expérience de jeu où ils peuvent prendre leurs propres décisions, communiquer entre eux et développer leur autonomie dans un environnement calme et positif. En plus de ne pouvoir applaudir, parents et entraîneurs ne devaient pas donner de consignes ou, en guillemets, coacher les joueurs pendant le match. Les entraîneurs pouvaient transmettre leurs consignes et rétroactions uniquement avant le match et à la mi-temps. Pour s'assurer du respect des consignes, il y avait un superviseur de match qui était présent durant la partie. Le match silencieux n'a pas pour objectif de retirer le plaisir du sport, mais plutôt de permettre aux jeunes de prendre confiance en eux et de développer leur autonomie et de profiter pleinement du jeu. Afin de permettre de mieux comprendre le concept, l'Association récréative des sports de Laval...
L'Association régionale de soccer de Laval.
Régionale. j'ai inventé l'acronyme quand je l'ai vu. Fournit un lien qui dirige vers une vidéo de l'Association de soccer d'Angleterre qui a adopté le concept de match silencieux en 2022. En mars, plus d'un million de jeunes joueurs de soccer ont pris part au Silent Support Weekend en Angleterre. Je traduis en la fin de semaine de soutien silencieux. Les règles du jeu y semblent toutefois légèrement différentes. Les spectateurs peuvent applaudir durant les parties, mais ne peuvent encourager les joueurs ou leur crier des consignes. L'objectif du Silent Support Weekend est de réduire la pression sur les jeunes joueurs de soccer, de leur offrir la chance de trouver leur propre voix, VOX, d'améliorer leur communication sur le terrain, de développer leur propre jeu et encore plus important, d'avoir du plaisir. Le directeur général de l'organisme SportAide, Sylvain Croteau, salue l'initiative des matchs silencieux. Il rappelle que 2 jeunes sur 3 quittent le sport avant d'entrer à l'école secondaire au Québec et que l'une des principales raisons invoquées est la pression subie par les parents, les entraîneurs ou les pères. M. Croteau souligne qu'on parle de plus en plus des dérapages et de la trop grande intensité de certains parents dans le sport au Québec. Mais cet enjeu touche plusieurs pays à travers le monde et il faut continuer la sensibilisation à ce sujet pour rappeler que le sport, surtout avec les enfants, il faut que ça se passe dans le bonheur. Alors, une belle initiative encore là pour arriver à ce résultat.
Vraiment. J'aimerais entendre des commentaires hein, des enfants, ceux qui sont les joueurs finalement, et les parents aussi qui doivent se taire. Ça doit être très particulier comme atmosphère.
Oui, sûrement. Si j'en trouve, je vais me faire un plaisir de vous les traiter.
Merci, Yvan. À tout de suite.